RCF. Éric Julien, depuis plus de 30 ans, vous ne cessez de faire connaître au public français un peuple autochtone de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, les Kogi. Le grand public se souvient notamment de cette rencontre entre l'astronaute Thomas Pesquet et les Kogi dans l'émission de télévision bien connue « Rendez-vous en terre inconnue ». Une rencontre improbable que vous avez rendue possible grâce à ce lien d'amitié et de confiance que vous avez tissé avec les Kogi qui, nous allons le voir, ces Kogi vous ont sauvé la vie. Alors depuis 1997, avec votre association Tchendoukwa, vous rachetez des terres pour réparer les spoliations de terrain que vivent les Kogi face aux narcotrafiquants ou aux groupes paramilitaires de cette région. Mais vous êtes également à l'initiative de rencontres entre des sages, des chamans, hommes et femmes Kogi, et des scientifiques européens. C'est ce que vous nous racontez dans votre nouveau livre, publié chez Actes Sud, « Kogi, le chemin des pierres qui parlent ». Alors Éric Julien, ce n'est pas dans la Sierra Nevada de Colombie que nous nous retrouvons, mais sur votre territoire, près de Die, dans la Drôme. Notre studio, c'est l'emplacement d'une nouée, un temple Kogi en pleine nature, à côté de votre maison. Nous sommes entourés d'arbres et d'oiseaux. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ce territoire qui est le vôtre, Éric Julien ?
Alors nous sommes ici dans le Haut-Diwa, c'est une sous-région, une petite région du département de la Drôme. Et le Haut-Diwa a plusieurs particularités. Nous sommes au sud du plateau du Vercors, des grandes falaises du Vercors, des falaises qui ont 200 millions d'années. Donc au pied de ces falaises, et bizarrement, étrangement, nous sommes pas loin d'un carrefour entre deux plaques tectoniques, la plaque des Alpes et la plaque des Pyrénées. Donc c'est un lieu énergétique assez intéressant. Et c'est là que j'ai posé mes valises et ma famille, il y a maintenant 20 ans, dans un petit repli de territoire avec des arbres et des oiseaux.
Ça vous fait penser à la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, où vivent les Kogi? Il y a des parallèles entre ces deux montagnes, ces deux lieux?
Deux montagnes sont un peu frères et sœurs, et surtout l'histoire des montagnes, si on écoutait les Kogi nous en parler, nous expliquerait à quel point ils sont frères et sœurs. Mais là, ce sont des massifs géologiques complètement différents. Dans la Sierra Nevada, en Colombie, on est à 6000 mètres d'altitude. Ici, on est à 2000 mètres. C'est pas les mêmes écosystèmes, c'est pas la même végétation. Et pourtant, les Kogi, quand on leur pose la question et quand ils sont venus, je pense qu'on va en parler, ont trouvé des similitudes.
Alors, ces Indiens Kogi, dont nous allons parler ensemble, que vous allez nous aider à découvrir, on vous présente comme le spécialiste des Kogi, l'ami des Kogi, l'ambassadeur des Kogi. Donc, on va d'abord essayer de connaître qui ils sont, ce qu'ils vous ont aussi fait découvrir. En quelques mots, déjà, on a parlé du territoire, ces hautes montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Où est-ce qu'on la situe en Colombie?
Alors, même si c'est parfois mal vu aujourd'hui de prendre l'avion, on va le prendre quand même pour aller en Amérique du Sud, au nord du continent, Colombie, un pays grand comme deux fois la France à peu près. Et au nord de ce pays, la Colombie, une montagne fascinante dont les sommets, effectivement, à 6000 mètres, 5008, culminent à moins de 40 km de la mer des Caraïbes. Donc les spécialistes vont nous dire c'est l'un ou le plus hotspot de biodiversité au monde. On ne connaîtrait, les scientifiques ne connaîtraient que 15% de ce qui vole, de ce qui rentre, de ce qui flotte dans cette montagne. Et au cœur de cette montagne, qui a réussi à traverser l'histoire agitée de nos modernités depuis la conquête espagnole, survivent ces sociétés qu'on a appelées autochtones, archaïques, qu'on a du mal à les nommer.
Comment vous les appelez, vous, ces sociétés?
C'est des humains racines. Pour moi.
Les hommes racines.
Les hommes ou les femmes racines, voilà, parce qu'ils sont encore en responsabilité du lieu où ils vivent. Ce n'est pas des racines qui immobilisent, c'est des racines qui invitent à la responsabilité, ce qui n'est pas pareil. Et ils auraient traversé 4000 ans d'histoire sans interruption, en transmettant toujours leur savoir et leurs connaissances.
Ils sont descendants d'une très ancienne civilisation, qu'on appelle les Tairona.
Alors, on sait mal d'où ils descendent, on a quelques bribes, et l'une des bribes c'est celle que vous évoquez, une très brillante civilisation, les Tairona, qui était très connue pour ses qualités d'orfèvre. Ils pratiquaient un alliage qu'on appelait le Tumbaya, qui est un mélange très subtil de cuivre et d'or, qui était utilisé pour soigner la terre. Donc on a retrouvé cet alliage dans un rayon de plus de 1000 km autour du cœur de cette société, ce qui veut dire qu'ils avaient des relations d'échange avec d'autres sociétés à plus de 1000 km. Donc les Taïrona semblent être, peut-être, les ancêtres des Kogba, qui est leur vrai nom, Kogi aujourd'hui. Mais il y a une histoire aussi très complexe qui parle d'autres communautés, de racines avec les Mayas, donc plutôt vers le Guatemala. Et dans certaines histoires très anciennes, les Kogi racontent qu'ils auraient fui des incendies et des grands feux et traversé la mer pour venir se réfugier dans la Sierra. Est-ce que c'est ces incendies dont on parle qui auraient été à l'origine de l'extinction des Mayas? C'est possible.
Alors ces Kogi, combien sont-ils aujourd'hui à vivre encore dans la Sierra Nevada?
Difficile à évaluer, parce qu'il n'y a jamais eu de recensement. C'est une grande montagne. Les chiffres les plus courants parlent de 25 à 30 000 personnes qui vivent sur les différents versants de la montagne, de 1600 mètres à 3500 mètres, 4000 mètres.
Alors on les a vus à la télévision, il y a quand même eu une émission qui a été marquante, qui a participé à la connaissance des Kogi pour le grand public en France. C'est Rendez-vous en Terre Inconnue avec Thomas Pesquet, l'astronaute qui est allé vivre avec les Kogi. C'est vous qui avez permis ce lien, hein, de mettre en relation.
Très modestement, sur cette émission, on a permis le contact, c'est pour que les producteurs et les réalisateurs de l'émission puissent faire leur travail. J'avais seulement demandé ou mis une proposition de condition, c'est qu'on n'embête pas les Kogi sans aucune contrepartie. Donc je salue l'émission et France 2, pour ne pas la nommer, qui a accepté de faire un appel à dons pour qu'à l'issue de l'émission, on puisse demander aux spectateurs de verser une contribution pour l'achat de terre. Donc je trouvais assez juste, ok, on vient les filmer, on vient les embêter, c'est quand même un peu envahissant. Mais en échange, ils ont récupéré 200 000 euros, c'est-à-dire 200 hectares de terre. Donc ça, je trouvais que c'était assez juste.
Et qui est, il faut le dire, le but de votre association, et on va le voir, hein, qui a permis de racheter des terres spoliées à ces Indiens. En tous les cas, cette émission a permis de faire connaître ces Kogi. On les voit bien avec leur tenue blanche, avec leur curieux petit bonnet pointu. Ça paraît drôle, comme ça, surprenant, des paysans exotiques. Mais en fait, c'est un peuple qui a une culture absolument extraordinaire et vous allez nous aider à mieux la connaître. Ce qui me fascine chez eux, c'est qu'ils ont été persécutés depuis pratiquement 500 ans et qu'ils sont encore aujourd'hui pacifiques, profondément spirituels, et on va le voir avec vous, dans le désir de dialoguer avec nous. Comment vous expliquez ça?
Je pense que c'est ça qui est à la fois fascinant et touchant, et peut-être même très émouvant. On ne va pas refaire la conquête des Espagnols ou des Italiens ou des Français ou des Portugais. Il n'y a pas eu que les Espagnols qui sont arrivés par là. Elle a été violente, elle a été terrible. Et donc les Kogi ont résisté un siècle. Enfin, les ancêtres des Kogi ont résisté un siècle. Puis ils se sont repliés dans leurs montagnes pour préserver leur culture. Et deuxième vague de violence, ils se sont encore repliés. On arrive à notre époque. Ils sont encore en train de nous dire, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourrait dialoguer. Parce qu'avec tout ce que vous savez et tout ce que nous savons, si on avait un vrai dialogue, on pourrait trouver des réponses aux grands enjeux de notre temps. Et effectivement, c'est fascinant.
C'est beau parce qu'ils ne se replient pas complètement.
Ils ne se replient pas. J'ai envie de dire qu'ils se préservent. La plus grande métaphore que j'ai trouvée pour parler d'eux, c'est qu'ils pensent que chaque communauté humaine a un rôle, une fonction, et qu'ils sont prêts à jouer leur rôle comme un organe d'un corps. Le foie a son rôle de foie, le cœur a son rôle de cœur. Et les poumons, leur rôle de poumon. Et pour fonctionner ensemble, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils fassent système. Donc eux, ils estiment qu'ils vivent dans le cœur du monde. Ils ont une responsabilité de gérer le cœur, si on disait ça, comme si on garde la métaphore. Et ils nous invitent à dialoguer avec nous, mais dans notre fonction, dans notre responsabilité. En fait, ils nous disent, si on pouvait se parler, on pourrait restaurer la santé et la vie sur Terre.
Et c'est leur mission, hein, soigner la Terre. Ils portent ça profondément en eux, d'après ce que j'ai lu.
On rentre dans des dimensions qui ne vous étonneront pas sur RCF. Il y a une petite phrase d'un géographe français qui s'appelait Élisée Reclus, qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Leurs chamans ont une formation qui dure 18 ans dans le noir. Pendant ces 18 ans, ils n'apprennent pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas des professeurs qui leur enseignent des choses. » Ils sont prolongés dans la situation fœtale de la maman. C'est-à-dire, pendant les 9 mois, l'embryon, dans le ventre de la maman, reçoit des informations par le filtre de la maman. Mais mentalement, il ne reçoit rien. C'est physiologique, c'est physique. Eh bien, les Kogi prolongent pendant 18 ans cette modalité d'apprentissage et ils mettent l'embryon dans le ventre de la mère Terre. Donc, pendant 18 ans, l'enfant est comme, si j'osais la métaphore, téléchargé par la terre, de ce que c'est que la terre, la vie sur terre. Et donc ils deviennent les voix de la terre. Donc c'est vrai que c'est comme ils sont les voix et la conscience de la terre, la souffrance de la terre, ils la ressentent, ils la vivent.
Visage, Thierry Lyonnais.
Éric Julien, on reviendra sur cette formation des mamous, hein, ces chamans qui, dans la société Kogi, tiennent un rôle important. Et ce sont ces fameux mamous qui sont venus ici. Mamous et sagas, je tiens à le dire, les sagas, ce sont les chamans femmes qui ont une place aussi centrale dans la civilisation Kogi. Ouais. Éric Julien, ça fait depuis combien de temps ? 30 ans maintenant que vous êtes
34
en amitié. 34 ans que vous êtes en amitié avec les chamans. J'aime bien cette expression de dire en amitié parce qu'ils vous ont sauvé. En fait, si vous êtes là aujourd'hui en face de moi, c'est grâce à eux parce que vous auriez dû mourir en 1985. Hein, vous étiez guide de montagne dans cette région et là, vous avez fait un œdème pulmonaire. Vous nous aviez raconté à ce micro il y a une dizaine d'années cela. J'aimerais que pour ceux qui n'avaient pas entendu cette émission, vous nous rappeliez rapidement comment ces Kogi vous ont sauvé la vie. Est-ce qu'ils vous ont demandé à ce moment-là ?
Effectivement, on est à 5000 mètres. J'étais jeune, parti avec une expédition, pour reprendre les termes d'usage. Et à 4500, 5000, un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, pas de douleur physique, mais plus de, on peut même plus tenir debout. Et pour une histoire trop compliquée à raconter, un peu longue, le responsable de l'expédition m'a redescendu un petit peu plus bas et est remonté s'occuper de l'expédition. Donc j'étais tout seul à 3500 mètres. Dans ma tente, en train de mourir, et je revois le visage de l'Indien qui a soulevé le bord de la tente, qui m'a regardé un peu étonné, parce qu'il ne devait pas trop comprendre qu'est-ce que je faisais sous ma bulle en plastique. Et peut-être une heure après, j'ai eu un bol de soupe chaude, et je me rappelle encore de ce bol de soupe chaude. Donc en fait, je n'ai compris que très longtemps plus tard que deux fils et leur père s'étaient occupés de moi, m'avaient soigné, puis au bout d'un moment m'ont mis sur une mule, m'ont redescendu en altitude. Ce qui était la première chose à faire. Et avant de les quitter, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Leur sauver la vie, c'est quand même pas rien. Ils m'ont parlé de leur montagne assiégée, pillée par les paramilitaires, les pilleurs de tombe, les exploitants de bois précieux, le tourisme, les routes, les mines, les narcotrafiquants, enfin bref. Donc on leur a pris 80% de l'artère dans ces 70 dernières années. Donc ils me disent, si tu veux vraiment nous aider et nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à reprendre possession de nos terres ancestrales. Et à l'époque, 25 ans, j'ai dit oui. Ne comprenant pas trop qu'est-ce que ça pouvait vouloir bien, qu'est-ce que ça allait vouloir dire, et surtout comment j'allais m'y prendre pour rendre les terres à ces Indiens. Je n'ai lu qu'après des livres comme Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui parlent du rapport à la terre en Amérique du Sud, je n'ai compris mon malheur qu'après.
Alors vous avez mis du temps.
Je dis ça en souriant, oui. Je dis ça pour les auditeurs.
Et régulièrement, on ne va pas revenir sur toute cette longue histoire, parce qu'on pourrait faire uniquement une heure avec vous sur votre histoire, mais on va surtout parler des Kogi et de ce qui s'est vécu ici dans le Diwa avec des scientifiques. Mais quand même, vous avez mis une dizaine d'années avant de revenir, de tenir parole. Vous avez tenu parole. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 1997, quand vous avez créé l'association Chendu Kwa.
Ici et ailleurs.
Ici et ailleurs, c'est ça, Chendu Kwa. Ben, vous avez racheté des terres pour les Kogi, et ça n'a pas été sans difficulté et sans danger. Hein.
On est dans une zone mafieuse, hein, paramilitaire, des gens difficiles, violents, et si on parle de rapport à la terre, c'est risqué. Donc on a perdu un ami avant d'être un collaborateur qui s'est fait assassiner en 2005 autour de ces questions-là.
Gentile Cruz Patiño.
Cruz, voilà, qui était métisse, qui essayait de danser entre la modernité, ses contradictions et la tradition pour aider ses humains. Voilà, il y a laissé la vie.
Assassiné par les paramilitaires en 2005.
Voilà, torturé, assassiné. Et on s'est longtemps demandé est-ce qu'on continue ou pas, et on s'est dit oh, ce serait dommage qu'il soit mort pour rien, donc continuons. Voilà, donc c'est l'idée de danse me vient à l'esprit dans ce travail. Il y a des moments où il ne faut surtout pas aller sur le terrain. D'autres moments, on peut s'y risquer. D'autres moments, il y a des grandes joies quand on retrouve une terre et qu'on la parcourt avec les Indiens en disant « on va pouvoir s'installer, on va pouvoir la soigner ». Oui, oh, ouais.
Parce que l'idée, c'est ça, en fait, c'est de racheter des terres pour qu'enfin, ils aient des papiers officiels, on va dire, qu'ils soient vraiment propriétaires des terres, pour qu'ils puissent de nouveau les soigner, comme ils disent, et puis vivre sur ces terres. Vous avez à ce jour acheté 2386 hectares.
Je sais pas si j'aime bien être précis sur les chiffres, parce que 6 hectares, c'est 6 hectares. C'est pas à récupérer. Ouais. Et on a racheté effectivement toutes. Alors sur les 2386, il y a à peu près 1800 hectares qui sont dans une même vallée. Et ce qui est très émouvant et intéressant pour moi, c'est que cette vallée est une vallée qui était une ancienne capitale politique des Kagba, des Kogi, des Tairona, des fameux Tairona. Donc c'est un cas unique au monde où des Indiens, héritiers d'une grande tradition précolombienne, reviennent sur les ruines de leurs ancêtres Et c'est pas qu'ils les restaurent, c'est qu'ils les réveillent. Donc on assiste avec eux à toute la démarche de réveil et de soins et de résilience des territoires. Et ça, c'est complètement fascinant.
Et Éric Julien, il y a eu la signature des accords de paix en Colombie en 2016. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les Indiens Kogi, ou est-ce qu'il y a toujours des paramilitaires qui risquent de les attaquer, de les chasser de leurs terres ?
La situation de la Colombie est un beau pays avec 90% d'habitants qui rêvent de vivre en paix. Et comme dans tout pays, il y a une marge d'habitants qui a un autre rêve, qui est très violent. En ce moment, il y a les élections présidentielles, la droite est très virulente, les assassinats repartent et les risques sont toujours très présents, malheureusement.
Donc c'est toujours dangereux et
toujours
très compliqué. Toujours pas en terre.
Toujours pas.
Vous écrivez dans ce livre, ce sont des larmes de tristesse, de joie et d'espoir qui me traversent au moment où j'écris ces mots. Vous êtes vraiment partagé par ce double sentiment en permanence de grande tristesse pour ce pays et en même temps d'espoir.
C'est une grande tristesse au-delà du pays pour l'histoire de l'humanité. Voilà des hommes et des femmes, et ils sont pas seuls dans le monde. Qui font quoi ? C'est quoi leur mission quand vous leur demandez ? C'est vivre en paix, c'est pas archaïque, apprendre à vivre en paix et soigner la terre. Alors de quoi a-t-on le plus besoin aujourd'hui dans notre humanité un peu fatiguée, pour pas dire malade ? C'est de réapprendre à vivre ensemble, à faire communauté en paix. Et puis si on pouvait un peu éviter d'abîmer la terre et de la soigner, on serait pas mal. Donc on sent bien qu'ils sont sur un chemin qui a du sens. Alors, il ne s'agit pas d'être Kogi, de devenir Kogi demain, mais de se réinspirer de ces traditions pour retrouver notre mémoire. Retrouver les chemins du vivre ensemble et de la paix avec la nature. En fait, la question, c'est pourquoi on détruit la nature ? Pourquoi on détruit la mère terre ? Donc pourquoi on détruit le féminin ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc oui, ça rend triste parce que la vie est belle, la vie est généreuse, la vie pourrait être agréable dans la fraternité ou la sororité, et l'humanité est toujours dans cette ambiguïté, cette ambivalence permanente de construction-destruction. On va se dire que c'est la vie, donc comment garder la foi et l'espoir et la joie, et surtout donner espoir aux jeunes générations, leur montrer que c'est peut-être la vie, mais qu'on peut quand même garder de la joie et de l'espoir.
Alors Éric Julien, vous allez nous aider, non pas à rentrer dans l'esprit des Kogi, mais vous passez beaucoup de temps avec eux. En fait, vous êtes en alternance entre ici, le Diwa, où nous nous rencontrons.
C'est une formation en alternance, on pourrait dire ça.
C'est ça. Et donc, vous allez très souvent sur le terrain avec eux, partager leur vie. Vous avez eu cette expression, la terre-mère. Aidez-nous à comprendre. On a souvent entendu cette expression-là en Amérique latine, la terre-mère, la Pachamama, chez les Quechua. Chez les Kogi, qu'est-ce que ça signifie pour eux, la terre-mère ?
Ce qu'on peut dire, c'est que être indien, c'est être la terre, c'est ressentir la terre. Il n'y a pas cette distinction entre la terre, qu'on appelle la terre-mère, et l'humain. C'est la même chose. La structuration de leur société n'est pas visible, je vais appeler ça horizontale, par forme, les humains, les papillons, les arbres. Leur structuration est verticale par énergie. Donc une constellation va donner une énergie qui va s'incarner dans un type de plante, d'animal ou d'humain. Donc c'est une structuration verticale du monde par énergie.
Donc nous sommes tous traversés par ces énergies-là.
Et on commence à découvrir scientifiquement que les constellations ont un impact jusqu'à nos cellules. Donc on aurait des caméras au ralenti qui filmeraient la végétation. Alors on connaît les tournesols qui tournent en suivant le soleil, mais tous les arbres, tous les animaux sont réglés. Alors j'ose pas dire horloge parce que c'est un côté mécanique, mais par cette énorme horloge cosmique et par le déplacement des constellations.
Le mouvement des planètes et des constellations.
Guide le mouvement des animaux et des plantes sur le territoire, qui chez les Kogi guide les humains. Nous on fonctionne à l'inverse. C'est nous qui décidons comment va fonctionner le territoire, comment vont fonctionner les humains et presque comment devraient fonctionner les étoiles. On peut se demander qui va gagner, les étoiles ou les humains. Je le dis en souriant parce que c'est d'une naïveté et d'une arrogance effroyable.
C'est un rapport de force, en fait, que nous avons, et eux essayent d'être plus dans un rapport d'harmonie.
Sans jeter du tout la pierre à ceux qui vivent dans ces locaux, qui travaillent dans ces locaux, le ministère de la Transition écologique a été construit à la Défense, dans une tour climatisée, où j'ai fait l'exercice de chercher une plante verte, il n'y en a pas. C'est une manière de dire, loin de la nature, loin du cœur, on ne la connaît plus, on ne la vit plus. Or, ça veut dire que si on ne connaît plus la nature extérieure à nous, ce qu'on a appelé l'environnement, nous sommes aussi devenus des exilés de la nature intérieure. Et tout le travail des Kogi, c'est de rétablir l'harmonie entre les deux. Être, c'est être tout, c'est être relié, c'est être. Donc être la terre, c'est être relié à tout ce qui fonde la vie. Donc effectivement, la formation de leur chaman, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est une formation pour dissoudre l'ego, pour reprendre conscience de cette vie qui nous traverse, comme l'écureuil, comme la sauge, comme les nuages.
Revenons justement sur cette formation des chamans, hein, qu'on appelle les mamous pour les hommes et sagas pour les femmes. Ils vous ont partagé ce qu'ils vivaient, ils vous ont expliqué, j'imagine, ce qui se passait durant. C'est impressionnant de se dire que c'est 9 ans ou 18 ans.
Parfois 27.
Trois cycles de 9 ans.
C'est par cycle de 9 ans.
Et là, que se passe-t-il dans ces formations-là? Comment est-ce qu'ils ont pu formuler ce qu'ils vivaient?
C'est compliqué parce que, d'abord, ils n'en parlent pas beaucoup. Même moi qui les connais un peu, ils n'en parlent pas. Ensuite, pour des raisons pédagogiques, ils ne veulent pas que leurs enfants qui sont dans ces formations voient le monde extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que notre cerveau et notre sensibilité vont être impactés, voire déformés. Si vous mettez dans les mains d'un petit garçon une voiture de pompier, dans les mains d'une petite fille une poupée, ou si vous leur mettez un écran, ça y est, vous orientez leur construction psychique et leur rapport au monde. Donc le fait de les mettre dans le noir avec aucune image de ce qui est, les concentre sur l'énergie qui permet que ce qui est soit. En fait, il y a des phénomènes et il y a ce qui permet les phénomènes. Le phénomène, ça va être un arbre, un animal, un orage, le vent, ça ce sont des phénomènes visibles, observables. C'est par rapport à ça qu'on les a appelés la nature et c'est par rapport à ça qu'on se positionne. Eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas les phénomènes visibles, c'est qu'est-ce qui permet les phénomènes visibles.
Mais pourtant, ça m'étonne, quand je lisais votre livre, Cogil, le chemin des pierres qui parlent, et que vous marchiez là, dans ces montagnes, les scientifiques occidentaux qui les accompagnaient étaient sidérés par leur sens de l'observation, du moindre détail.
Il y a de l'observation, effectivement, et il y a surtout beaucoup de ressenti. C'est-à-dire, à un moment, si on reprend votre exemple, il s'arrête devant une montagne, et j'ai bien réécouté les enregistrements vidéo qu'on a fait pour essayer de comprendre ce qu'ils disent exactement. Et à deux reprises, ils disent « J'écoute ça à droite ». Il parle à son collègue chaman « Est-ce que tu entends la même chose ?» L'autre dit « Oui, j'entends la même chose ». Donc, ils écoutent la montagne. Donc là, on voit bien qu'ils ont une exacerbation des sens que nous avons perdus. Il y a la vision, l'observation, parce qu'ils vivent dans la nature, mais il y a le son. Il y a la sensibilité à l'humidité. Et en fait, quand ils sont 18 ans dans le noir, comme ils n'ont plus la vision, puisqu'ils ne voient pas les phénomènes, les choses, les arbres, les animaux, ils surexacerbent leur sens et leur capacité à percevoir peut-être un champ magnétique, peut-être des radiations nucléaires naturelles, de radioactivité naturelle. Je ne sais pas.
Ils entendent.
Ils entendent des sortes de crépitements. Alors, on sait que la nature a des sons. Et si un docteur met un stéthoscope pour écouter l'intérieur d'un corps, il entend des sons. Il va d'ailleurs, selon ces sons, vous dire « t'es malade » ou « il y a quelque chose qui ne va pas ». Si je devais prendre une métaphore, il pose le stéthoscope. Ils sont le stéthoscope qui pose sur le corps terre. Et donc, ils écoutent la terre comme un médecin écoute un corps humain. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas de territoire, mais de corps territorial. Donc, sur un territoire, il y a des grandes fonctions organiques, un foie, des poumons, des reins, qui ont les mêmes rôles que nos fonctions corporelles. De filtrer, d'oxygéner, etc. Donc ils voient la nature et la Terre comme cette théorie de Gaïa hein, qu'on a découverte il n'y a pas très longtemps, comme un énorme corps vivant qui fonctionne à l'identique d'un corps humain.
Et vous faites le parallèle aussi avec l'acupuncture, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui circulent dans ce corps. Donc sur la Terre, il y a des points énergétiques, ce qu'ils appellent
des
points
énergétiques. C'est vrai, quand on n'est pas très habitué à ce genre d'approche, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Mais il suffit de regarder un corps humain, de garder cette métaphore. Quand on regarde un humain, son ami, un compagnon en face de soi, on voit de la peau, des yeux, un nez, mais on ne voit pas ni les réseaux sanguins, ils sont sous la peau, ni les réseaux ventilatoires, ils sont sous la peau, ni les réseaux nerveux. Et pour ceux qui s'intéressent peut-être à la médecine chinoise, ni les réseaux énergétiques. Pour ça, ils sont là. Et ce sont ces réseaux qui relient les organes et qui font que la vie est possible. Et pour la Terre, c'est pareil. Il y a des réseaux sanguins, ça peut être de l'eau souterraine ou de l'eau de surface. Il y a des réseaux ventilatoires, c'est le vent. Mais c'est aussi l'air qui rentre dans une grotte et qui va aller former des cristaux en profondeur. Il y a des réseaux nerveux, c'est peut-être les champs magnétiques ou la radioactivité naturelle. Bah, bref, ces réseaux existent. Et donc, comme il y a l'acupuncture pour un corps humain, comme on peut prendre le pouls d'un corps humain, on peut avoir des points qu'ils appellent des ezoamas, où la Terre vous parle et vous informe sur sa santé. Donc la grande question, c'est de savoir si ça ne marche que chez eux, en Colombie, ou si ça peut marcher partout sur la planète. C'est pour ça qu'on les a invités dans la Drôme.
Mais si la Terre est une, il y a une unité partout sur la Terre.
Vous savez que les scientifiques ont besoin de voir pour croire. Ma conviction n'étant pas suffisante, nous avons fait l'expérience de prouver, s'il faut prendre ce terme, qu'effectivement leur savoir et leur approche du corps territorial étaient valides ailleurs que sur leur terre, dans la Drôme par exemple.
Visage, RCF.
Alors Éric Julien, ce qui est très intéressant dans la démarche que vous avez menée à travers votre association Chendukwa, c'est que dans les premières années de cette association, c'était vous qui alliez aider. Vous alliez aider les Kogi pour qu'ils récupèrent leurs terres, c'est ce qu'ils vous avaient demandé. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un changement. Vous continuez toujours à racheter des terres quand vous le pouvez, mais vous avez proposé une vraie rencontre entre ces Kogi qui viennent non plus demander, mais qui viennent apporter leurs connaissances. Et vous avez organisé en 2018 une rencontre entre trois chamans, deux hommes, deux mamous, et une saga, une femme. Et puis, combien de scientifiques?
25
scientifiques. Quel corps de métier, quelle spécialisation?
Il y avait anthropologue, philosophe, biologiste, astrophysicien, médecin, géographe, voilà, une grande variété de regards. Climatologue, naturaliste, c'est important parce qu'on se rend compte, c'est comme un médecin. Vous avez un podologue, un cardiologue, voilà, on essaie de réunir ces spécialistes du territoire pour qu'ils se parlent.
Alors votre idée était de faire un diagnostic croisé de santé territoriale.
Vous souriez.
Je répète, non, ça fait très administratif. Faire un diagnostic croisé de santé territoriale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Comment les traduire? Parce que pour les Kogi, je pense que ça ne devait pas être très parlant de dire ça. Eux, ils le formulaient autrement, j'imagine.
Pour les Kogi, ce qu'on s'évoquait tout à l'heure, c'est que le territoire est un corps et fonctionne à l'identique d'un corps humain. Ça, c'est évident pour eux. Donc, partant de là, je me suis dit, allons jusqu'au bout de leur raisonnement. Je ne cherche pas encore à savoir dans des concepts scientifiques si c'est vrai ou faux. Expérimentons, ce qui devrait être la démarche de la science. Et donc l'idée, c'était de faire venir effectivement deux hommes chamans, des mamas, qui veut dire le soleil, l'énergie, et une femme saga, qui veut dire l'eau, l'ombre, la lune, et de leur dire promenez-vous dans la Drôme et faites-nous un diagnostic, ce territoire est-il en bonne santé
avec... Voilà, c'est ça, dites-nous ce que vous ressentez,
voilà, qu'est-ce
sur
que
ce
vous
lieu,
voyez, qu'est-ce que vous auriez à nous dire de ce lieu, avec vos grilles de lecture, si on prend notre jargon. Et on a demandé à des scientifiques, je les remercie d'avoir osé l'aventure, des géographes et naturalistes notamment, promenez-vous dans la Drôme, même territoire, et faites-nous un diagnostic de santé territoriale. Je crois que c'est une des premières fois, je connais évidemment pas toute l'histoire, où on n'a pas fait se rencontrer scientifiques et chamans dans des salles de conférences ou en ville.
Ce qui se fait souvent, en
ce
fait.
Qui se fait malheureusement
venir
souvent,
des Indiens d'Amazonie à Paris ou à New York.
On imagine qu'ils ne sont pas très à l'aise, ce n'est pas leur environnement privilégié. Là, on s'est dit, on va prendre un objet commun, qui est la nature, sur lequel vous devriez normalement avoir des choses à nous dire. On peut l'espérer, en tout cas. Et donc, je me rappelle les premiers pas dans la forêt, en me disant, ça va être un bide absolu. Ils connaissent ni les hêtres, ni les chênes. Enfin, ils connaissent pas nos écosystèmes. Ils sont jamais venus en France. Au pire, on va prendre une bonne bière à la fin, puis on va se quitter, bons amis. Et en fait, ils nous ont appris, sur nos territoires, des choses absolument hallucinantes que même nos scientifiques ne connaissent pas.
Allez, on va donner un exemple, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est celui des pins noirs. Ils passent ici, là, pas très loin d'ici, dans un endroit où étaient plantés des pins noirs, et ils vous disent cette phrase que j'ai trouvée incroyable, ces arbres sont égoïstes. Alors, expliquez-nous ça.
La Drôme, comme d'autres régions en France, a été l'objet de grandes périodes de déforestation, notamment pendant la Révolution française. Donc c'est Napoléon III qui à un moment tape du poing sur la table et engage une grosse démarche de reforestation. Et l'essence d'arbre qui est choisie, c'est du pin noir, autrement appelé pin d'Autriche, pour sa capacité à pousser vite sur un terrain aride. Donc ça marche, ça pousse très vite sur un terrain aride, mais c'est pas un arbre local, donc très vite ça acidifie les sols. En acidifiant les sols, ça ne permet plus aux arbres locaux, les hêtres, les chênes, de repartir. En ne permettant plus aux arbres locaux de repartir, il y a moins d'animaux, moins de papillons, donc en fait c'est des forêts vides, il n'y a plus de faune et de flore, ou très peu. Ça a baissé. Et donc ça a étanchéifié les sols, et il n'y a plus d'écoulement d'alluvion vers la Drôme. Donc la Drôme n'a plus assez d'alluvion et s'enfonce dans son lit. Donc avec un siècle de décalage, on voit tous les impacts de déséquilibre de la région, d'avoir mis un pin non autochtone dans la région. Bon, moi je connais l'histoire, les naturalistes la connaissaient, les Kogis arrivent, regardent ces arbres et disent ce sont des arbres égoïstes, et nous racontent à peu près cette histoire que je viens de vous partager, et c'est normal que des égoïstes plantent des arbres égoïstes.
Wow.
Et ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est que ce n'est pas des jugements moraux. Ils ne sont pas en train de nous dire... ils pourraient, depuis qu'on les a conquis, enfin qu'on les a envahis depuis 1524, pour eux, ils pourraient nous en vouloir, ils pourraient être dans... Vous êtes vraiment dégueulasse, ils pourraient être agressifs avec nous. C'est pas du tout cette posture. C'est, si on se parlait, on pourrait apprendre des tas de choses ensemble.
Et ça vient d'où, ça, cette capacité de ne pas être en colère contre ce
Je pense que c'est, ça vient questionner notre rapport à l'éducation. Educere, éduquer, c'est faire surgir. On n'est pas du tout dans des systèmes éducatifs qui font surgir. Donc eux, ils ont un système éducatif où ils vont apprendre à rentrer dans la matière, à rentrer dans le concret, à proposer aux enfants d'être au service de la communauté, à apprendre des apprentissages individuels, collectifs, et surtout apprendre à accompagner et gérer ses émotions. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'un enfant va avoir plusieurs familles. Il va être jusqu'à 5-6 ans dans une famille, puis ils vont l'envoyer dans une autre famille pour qu'il découvre un autre rapport à l'autorité, un autre rapport à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, un autre métier. Voilà. Donc il voyage dans des systèmes éducatifs différents. Ça fait des enfants extrêmement posés, extrêmement sereins, extrêmement à l'écoute. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas que c'est que ça qu'il faut faire, mais sans doute cela contribue-t-il à cette tranquillité, cette paix intérieure. C'est un objet éducatif, c'est une finalité éducative, apprendre à vivre à peu près en paix ensemble. C'est en ce sens-là que je dis, sans doute ne sont-ils pas si archaïques qu'on a voulu nous le faire croire.
Le vivre ensemble est très important. Moi, ce qui m'a impressionné dans différents documentaires que j'ai pu voir sur les Kogis, c'est la manière lente à nos yeux de prendre des décisions, de se poser, de s'écouter les uns les autres. Ça nous rendrait fous. Nous, enfin, je ne sais pas si vous, ça ne vous a pas rendu un peu fébrile de temps en temps. Pour prendre une décision,
ça va encore plus loin que ça.
Ça va prendre des jours.
Mais pourquoi ça prend des jours? Au moment où on se parle, puisqu'on est dans un studio magique, on est au milieu de la forêt, on entend des oiseaux. Tout à l'heure, on évoquait que leur structuration est verticale. Elle intègre les autres vivants, les arbres, les oiseaux. Donc si je prends une décision, quel impact va-t-il avoir sur l'oiseau que j'entends chanter? Quel impact cette décision va-t-elle avoir sur la rivière? Quel impact va-t-elle avoir sur les arbres?
Donc ils pensent toujours à ça, donc moindre décision pour leur communauté.
Puisque leur famille n'est pas que humaine, mais vivante dans toutes ses dimensions, il faut prendre la vie et surtout regarder les conséquences de la décision de l'écosystème dans sa dimension, tous les vivants, pas que les humains. Donc effectivement, ils vont aller se mettre, là on entend un oiseau, ils vont savoir discuter avec l'oiseau, donc le connaître. Et si on fait une route ici, qu'est-ce que ça change pour toi? Comment tu vas gérer ça? Où tu vas aller? Etc. Donc, pour les hommes et les femmes pressés que nous sommes, c'est assez déroutant. C'est un peu long, mais ça fait des relations en accord avec la nature, et non pas contre la nature, des décisions justes.
Mais justement, Éric Julien, quel est le rapport au temps? On a l'impression qu'ils ont un rapport au temps qui est totalement différent du nôtre.
Là aussi, la grande difficulté dans notre société moderne, c'est que nous avons un conflit de lois. D'un côté, nous avons la loi des hommes, qui change plus des hommes que des femmes, malheureusement, qui change quand ça nous arrange. On change de président, on change de loi. De l'autre côté, c'est pas ça. C'est quels sont les principes qui font que nous sommes en vie. Et le temps est un de ces principes. Il y en a d'autres, mais le temps est un de ces principes. Donc ce sont des principes non négociables. Ils sont à l'œuvre dans votre corps, ils sont à l'œuvre dans l'oiseau qu'on entend, ils sont à l'œuvre dans le territoire. Et être en harmonie avec ces principes, c'est être en bonne santé. Être en disharmonie avec ces principes, c'est tomber malade. Et la Terre tombe malade. Le réchauffement climatique n'est qu'un symptôme de température d'une Terre qui tombe malade parce que nous ne respectons plus ces principes. Donc le temps, il a une logique linéaire, hier, aujourd'hui, demain. Et il a surtout une logique cyclique. Et c'est le mélange des deux qui permet aux Kogis d'avoir un rapport à la tranquillité et à l'histoire très différent d'une autre.
Éric Julien, j'aimerais qu'on, qu'on parle d'un mot. Vous nous aidiez à comprendre un mot qui me semble essentiel chez les Kogi. C'est le principe qu'on dit C, qui s'appelle C. Qu'est-ce que c'est, ce principe C?
Ce qui est très troublant pour moi, c'est qu'un monsieur qui s'appelle René Guénon, je crois que c'est en 1924, a écrit sur le continuum de toutes les traditions. On pourrait dire que c'est le Dao, peut-être, que c'est ce que certains ont appelé Dieu, peut-être. C'est très intéressant de se rendre compte, ça c'est une liaison que je fais, que ça rejoint peut-être les dernières découvertes de l'astrophysique. Si on observe l'univers, on observe ce qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est les étoiles et les constellations. Et ça ne représente que 5% de l'univers. Les 95% seraient une matière noire dont on a découvert qu'elle était en mouvement d'expansion, donc plutôt une énergie noire.
Donc c'est la force de vie.
C'est indéfinissable. Le Tao, il ne faut pas qu'on le définisse. Dès qu'on met un mot dessus, on l'enferme. Mm-hmm. C'est le potentiel, c'est l'énergie potentielle qui est là. Et elle ne se révèle que quand on projette une intention dessus. Quelle intention projette-t-on sur l'énergie? Donc on va révéler. C'est pour ça que les Kogi nous expliquent clarifier vos intentions. Autrement, vous révélez des phénomènes qui peuvent être fort désagréables. Mais c'est tout le potentiel dont est porteur la vie.
Et c'est très dense ce que vous dites là, parce que clarifier vos intentions, c'est-à-dire que les Kogi vous disent, lorsque vous travaillez une terre, par exemple, clarifiez vos intentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser encore une fois
Vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire déjà calme-toi. Et c'est vrai pour les modernes que nous sommes, c'est aussi vrai parfois pour eux qui sont dans des activités physiques, donc calme-toi. Puis après, pose, qui va encore au-delà, pose-toi et entre en toi. Donc, voilà, il y a tout un cheminement pour rentrer en soi. Les taoïstes disent revenir à la maison, quoi, revenir en soi. Et puis là, ils vont vous poser des tas de questions pour clarifier pourquoi vous faites les choses. Un exemple très simple, vous êtes dans une hutte avec deux portes entrée-sortie. Vous êtes là et vous dites, un collier va vous demander, en vous regardant un peu fixement, si tu veux sortir, par où tu sors? Alors la question paraît un peu bizarre, comme ça, par où je sors? Par la porte. Il vous répète la question, si tu veux vraiment sortir, par où tu sors? Voilà, et donc on peut se rendre compte qu'on peut sortir aussi par la voie spirituelle. Enfin bref, ça ouvre plein de champs. Donc c'est une invitation permanente à clarifier quelle est l'intention profonde qui vous amène à poser un acte ou une parole, et êtes-vous sûr que cet acte ou cette parole soit juste? Donc souvent les plus grands chamans Kogi, qui peuvent passer 27 ans dans le noir pour certains, vous ne les voyez pas, ils parlent pas, vous avez presque l'impression que c'est le petit balayeur à l'entrée du village, ils sont invisibles, et pourtant ils ont une puissance quand ils prennent la parole. Non pas une puissance sûre, une puissance de l'avec. Une fois, il y a trois chamans qui ont rencontré un rishi hindouiste, qui voulait les voir, et il a regardé la main du premier, il a dit « Ah, très bel humain, très très bel homme ». Il a regardé la main du deuxième, magnifique. Et puis il a pris la main du troisième, qui s'appelait Marcelo, qui a une histoire incroyable, et là, il s'est mis à pleurer. Et il s'est dit « J'ai jamais vu un tel humain ».
Mais Eric Julien, comment avoir un rapport juste avec ce peuple-là, ces peuples premiers, comme on dit souvent? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance aujourd'hui, soit on les méprise, ce qu'on a fait longtemps, on dit qu'ils sont des sauvages. Enfin, quand on les voit, qu'on voit la pauvreté de leur hutte, la manière dont ils sont habillés, des tissus tissés eux-mêmes, tout simple, blanc, c'est des pauvres, vu de l'extérieur, c'est des pauvres. Donc, soit on a eu cette et on a encore cette attitude un peu de les dénigrer, de considérer que c'est des sauvages, soit aujourd'hui on a une autre tendance qui est la fascination, et ce sont des êtres tous merveilleux, illuminés, qui ont tout à nous enseigner, nous, dégénérés occidentaux. Donc quelle attitude juste à avoir? Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui il y a des risques de dérive, d'une espèce de fascination aveugle pour ces peuples premiers, et c'est parfois vrai chaman, parfois pseudo-chaman.
L'attitude, je pense que la réponse, nous l'avons en nous. Ce sont des démarches où on ne peut rencontrer l'autre que si on se rencontre soi-même. Donc on voit chez l'autre ce qui nous manque chez nous. Il y a des gens qui sont en quête d'exotisme ou d'expériences dites hallucinogènes en prenant des substances comme l'ayahuasca ou le peyote, parce qu'eux-mêmes ne savent pas où ils habitent ou ils ne savent pas où ils sont. Donc ils projettent sur l'autre. La différence entre le savoir et la connaissance, peut-être que le savoir, on peut l'accumuler à l'extérieur. La connaissance, elle avance avec le connaissant. Et si on reprend le mythe de Sisyphe de Camus, malheureusement, chacun refait son... Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Chacun refait son chemin, redémarre son chemin de zéro. Il y a une grande mystification entre, dans l'idée de progrès. Évidemment qu'on progresse dans la maîtrise de la technologie et dans l'artificialisation du monde, ça c'est incontestable. Par contre, la capacité à être et à être ensemble en lien avec la vie, celle-là, elle redémarre à chaque génération. Donc, il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai été dans cette position et j'ai fait la même chose. J'ai projeté sûrement des choses, les cow-boys, les Indiens. Je souhaite simplement qu'ils rencontrent, que les autres jeunes qui vont aller projeter ce qu'ils ont besoin de projeter sur leur chemin de vie, parce que notre modernité ne l'offre plus. C'est peut-être ça le vrai manque.
On manque de rites d'initiation. On manque de rites d'initiation, les gens vont chercher ailleurs.
D'espace où les jeunes peuvent se retrouver en nature pour se retrouver eux-mêmes. On n'a plus ça, donc on va le chercher à l'extérieur. Ben, je rêve qu'ils trouvent des gens qui sachent encore être dans cet accueil et dans cette incroyable générosité qu'ils ont eue pour moi. J'ai eu de la chance de tomber sur des gens généreux et gentils.
Et authentiques.
Et authentiques.
Éric Julien, comment ont réagi donc ces scientifiques qui ont rencontré ces cow-guys ici, sur le terrain, dans le Diwa, pour aller faire un petit peu ce diagnostic croisé de la santé territoriale? Qu'est-ce qui les a le plus étonnés? Alors bien sûr, il y a votre livre, hein, les gens pourront tout lire dans votre livre, mais comment vous formuleriez ce qui a vraiment impressionné ces scientifiques?
On peut répondre deux choses. Il y a des choses qui les ont impressionnés, mais en fait, ça dépend... On revient à la même réponse, hein. Ça dépend où sont les scientifiques. La science a quand même une grosse difficulté aujourd'hui en général, c'est s'interroger sur son processus de production de savoir. Donc vous avez des scientifiques qui ont une forme d'humilité pour s'interroger sur comment nous produisons du savoir, et ceux-là ont été touchés. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le vrai ou dans le faux, ils ont été touchés par la rencontre humaine et interpellés par ce qu'il s'est dit. On n'est pas encore dans c'est vrai, c'est faux. Ils ont été interpellés et touchés. Et puis il y a ceux qui ne sont pas dans cette démarche d'interpeller comment produit du savoir, à qui ont regardé ça un peu de loin, c'est pas sérieux ces histoires. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de grandes découvertes. Hein. Une fois, on était au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse et un cow-guy voit dans une vitrine un animal empaillé, un petit tigre, on va dire ça pour aller vite, et il dit oh, c'est mon oncle. Rappelez-vous, on disait que c'est structuré par énergie, donc les animaux font partie de la famille. Donc il voit son oncle empaillé dans la vitrine, il est un peu interloqué. Il vient me le dire, je vais voir le scientifique qui nous accompagne, il a vu son oncle dans la vitrine. Et l'autre me dit, c'est impossible, c'est un animal qui a été identifié au nord du Mexique, pas en Colombie, donc votre ami se trompe. Je reviens le voir, je dis, mais t'es sûr? Parce que j'ai grandi avec lui, oui, je suis sûr. Je retourne voir le scientifique qui me dit, mais on va regarder sur Internet, regardez, il n'est pas identifié en Colombie. C'est juste pour montrer à quel point nos croyances et notre absence de curiosité de ce qui se passe, dans ce cas-là, les fait passer à côté d'une grande découverte. Je suis persuadé que cet Indien avait raison, que cet animal, ils auraient pu le découvrir dans un endroit où ils ne le connaissaient pas. Mais c'est nos croyances, nos raisonnements qui nous font mettre les cow-guys comme moins développés que nous, qui nous interdisent de nous ouvrir à la vraie connaissance. Donc je reviens à votre question, il y a ceux qui étaient dans le chemin de l'ouverture, encore une fois, sans acheter c'est vrai, c'est faux, on n'est pas là-dedans. Et ceux pour qui le pas est trop grand. Il y a eu un exemple comme ça où des cow-guys dans un laboratoire d'astrophysique ont expliqué à des astrophysiciens qui connaissaient des étoiles qui ne pouvaient pas se voir à l'œil nu et qu'ils avaient une grille de classification de ces étoiles. C'est compliqué pour un astrophysicien qui a un satellite, qui a Hubble, qui a des ordinateurs, d'admettre qu'il y a un autre accès au savoir. C'est très compliqué.
Et comment vous avez vécu cette rencontre, vous personnellement, entre Thomas Pesquet, qui lui arrivait de l'espace, et qui était là avec les cow-guys? On se souvient de la scène dans ce magazine télé, où il avait l'air dérouté. Enfin, moi, j'ai l'impression que je regardais son visage, Thomas Pesquet, il était perdu là au milieu de ces cow-guys, qui lui posaient des questions totalement différente que des questions habituelles qu'on lui posait sur... Comment vous avez vécu cette rencontre improbable?
Moi, j'ai vécu la préparation et puis j'ai été ensuite très gentiment invité sur le plateau. Je n'étais pas là pendant le tournage. Mais ce que j'en ai appris et ce que j'en ai compris, c'est à un moment une remarque de Thomas Pesquet qui dit « Nous avons des satellites, des scientifiques, des programmes de recherche, et nous n'arrivons à rien pour protéger la nature. » Ils n'ont rien, ils sont à pyjama, pieds nus, et ils arrivent à protéger la nature. Donc il y a un truc qu'on n'a pas compris.
Et nous avons tout, ces satellites, ces machines, là j'ai la phrase devant les yeux, et nous n'arrivons pas à enrayer la destruction de la planète.
Et eux, ils y arrivent. Alors voilà, et c'est une chose que j'ai appris chez les cow-guys, c'est que tout ce qu'ils disent est fondé sur des faits réels. Tout, absolument tout. Quand ils vous disent on peut régénérer une forêt en 5 ou 6 ans, on sait maintenant, on l'a vu faire en 5-6 ans. Alors, c'est plus tout à fait une forêt primaire parce qu'elle est régénérée, mais c'est comme une forêt primaire. Ils l'ont fait avec les perroquets, avec l'eau qui revient, avec les singes. Ils ont cette connaissance incroyable.
C'est-à-dire que les terres que vous avez rachetées, c'est 2000...
Vous revenez 10 ans plus tard, vous ne voyez pas la différence avec une forêt primaire. Alors, quelqu'un de très spécialisé va peut-être le voir, mais ça se voit quasiment pas.
Mais vous écrivez dans votre livre, Éric Julien, « Nous avons là deux systèmes de pensée, deux rapports au monde diamétralement opposés. L'un qui part de la nature, de ses principes, afin d'inspirer et d'organiser comme un prolongement la société des hommes. L'autre qui part de ses désirs, de ses croyances, et qui les projette sur la nature afin de la mettre à son service. L'un qui soigne et équilibre, l'autre qui, entre guillemets, exploite et déséquilibre. »
Vous avez très bien résumé. Je ne sais pas qui a écrit ces propos parfaits, mais j'ai rien à rajouter. Et la question clé qui est derrière, c'est la réconciliation. Notre modernité amène des choses formidables. On a un micro, on a des téléphones, et pourquoi pas?
On va diffuser cette émission.
On va diffuser. J'ai rien contre la modernité. Et les traditions, j'ai pas envie de devenir cogni. Demain, il y a un sculpteur italien qui s'appelle Pistoletto. Et ça a été repris par Edgar Morin et par d'autres auteurs qui parlent du troisième paradis. Il dit, on a vécu pendant une longue époque plus ou moins en harmonie avec la nature. C'était sûrement pas parfait, faut pas l'idéaliser, mais c'était comme ça. On arrive dans la modernité avec l'artificialisation du monde et le progrès technologique qui oublie un peu l'être et le vivre ensemble. On va pas revenir en arrière, on peut pas rester immobile. Il faut absolument qu'on se parle pour réinventer un troisième monde. Et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est pas la modernité qu'il propose. C'est ceux qu'on a appelés les sauvages, les archaïques qui nous proposent ça parce que c'est notre destin commun qui est en jeu. Il faut que cette voie, on l'ouvre en joie pour donner de l'espoir.
Éric Julien, on le voit en observant les coquilles, en vivant avec eux comme vous l'avez fait, ce sont des êtres qui sont en profonde communion avec la nature, mais on a l'impression que la dimension spirituelle, elle est omniprésente. Est-ce que c'est une impression, ou est-ce que vous, qui avez partagé leur vie, vous diriez cela, qu'ils sont profondément spirituels?
Je vous répondrai par un petit pas de côté, que pour eux, tout est nourriture. Le corps humain est le temple conscient de la vie, l'endroit où convergent toutes les énergies cosmiques ou terrestres de la vie. Donc tout ce que nous mettons dans le corps humain, ou tout ce que exprime le corps humain, nourrit ce temple. Qu'est-ce qu'on mange? Alors c'est très physique, hein, de la nourriture industrielle ou de la nourriture bio ou naturelle. Là, ça informe le corps. Qu'est-ce qu'on mange sur un plan relationnel? Qu'est-ce que je produis comme phrase vis-à-vis de mon prochain ou de mon ami ou de mon compagnon ou de ma compagne?
Quelles sont mes intentions?
Et qu'est-ce que je reçois comme cochonnerie parfois? Parce que la personne est en mauvaise humeur ou en colère, je sais pas quoi. Voilà, ça va nourrir mon corps. Et on a tous ce sentiment d'avoir les idées qui tournent dans la tête, de ruminer, parce que vraiment il a été trop con, celui-là. Je le dis en souriant, mais c'est bienvenu nous impacter, nous nourrir. Et le troisième registre, c'est qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que je laisse la nature me dire et me nourrir? Donc la présence, ce qu'on va appeler la méditation, la mise en lien avec des pratiques qui leur sont propres, mais qu'on retrouve dans le bouddhisme zen ou dans d'autres pratiques, pour que le champ spirituel soit lui aussi nourri, et que par retour, nous nourrissions cette spiritualité. Donc c'est ces trois plans de nourriture physique, relationnelle et spirituelle qui les animent. Il n'est pas rare de voir un kogi à 7h du matin tout seul dans un coin de forêt et de redescendre le soir à 6h, il n'a pas bougé d'un millimètre.
Et puis là, il est avec son petit objet qu'il frotte. Là. Qu'est-ce que c'est cet objet?
Ça, c'est un objet qu'on appelle un poporo, qu'on trouvait un peu sur toute la cordillère des Andes, hein, dans beaucoup de communautés, qui associe trois symboles clés, la mer, l'eau, les océans. Parce que pour eux, toute la vie est dans l'eau, toutes les formes de structure de vie sont dans l'eau, et mieux que ça, les formes de vie sont dans la goutte d'eau. Là, ça vient taper avec beaucoup d'intérêt toutes nos recherches sur la mémoire de l'eau. Mais bref, donc il y a un élément de cet objet qu'ils ont dans les mains qui ramène à la mémoire de l'eau, ne pas oublier d'où vient la vie. Et quand tu médites, relie-toi à l'eau. Il y a une deuxième composante de cet objet qui est un morceau de bois qui renvoie à toutes les formes d'expression de la vie, les animaux, les arbres. Donc d'un côté, c'est la mémoire d'où vient la vie. De l'autre côté, c'est toutes les formes d'expression. Et il y a une troisième composante qui est la feuille de coca qui ramène à la conscience. C'est-à-dire, quelle est ta capacité à te souvenir et à respecter d'où vient la vie, l'eau, et quelle forme elle prend, toutes ces expressions vivantes. Et ça, c'est ma conscience et ma responsabilité. Et la capacité à allier les trois donne une forme sur ce poporo, une espèce de boule jaune qui reflète, puisque nous sommes tous différents, comment chacun, à sa manière, garde cette mémoire, garde cette conscience.
Vous nous parlez de l'eau, Éric Julien. L'eau est un élément féminin, où la femme représente l'eau, si j'ai bien compris, chez les Kogi. Comment vous formuleriez ce rôle particulier qu'ont les femmes, qu'elles soient chamanes ou pas chamanes?
En fait, dans la société, ce qui est intéressant Kogi à essayer d'appréhender, c'est que les Kogi sont une des dernières sociétés qui a un savoir qui remonte, ou une connaissance qui remonte à plus de 4000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une similitude de connaissance entre l'Égypte ancienne, les aborigènes et les Kogi. Et quand vous regardez, les trois parlaient de la même chose. Les aborigènes parlent du temps du rêve. Les Kogi parlent de Mewaka, l'aube de la pensée. Et les Égyptiens parlent d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont accès, tous les trois, encore, j'ai presque envie de dire miraculeusement, aux principes qui fondent la vie. Avant que la vie ne s'exprime. Comment la vie est arrivée? Ils le savent. L'un de ces principes s'incarne dans l'eau, et c'est l'énergie féminine, le yin, si on reprend le Tao, qui en a la conscience et la responsabilité, donc les femmes. L'autre principe s'incarne dans l'or, le masculin, le yang. Et c'est le mariage de l'eau et de l'or, du masculin et du féminin, qui fonde la vie. Or aujourd'hui, on pille l'or et on massacre l'eau. Donc c'est ça qui les fait pleurer.
Vous avez écrit un ouvrage sur les 9 principes essentiels de la société Kogi, qui s'appelle le choix du vivant. Il y a une dimension très importante dans... Elles le sont toutes les 9. Hein. Il y en a une que je trouve importante pour notre avenir, c'est l'interdépendance.
Alors c'est un livre que j'ai coécrit avec Marie-Hélène Strauss, qui est toujours dirigeante d'entreprise. Et c'était intéressant, elle me posait la question, mais c'est quoi une entreprise vivante? Elle qui était dans des tensions managériales. Donc on a écrit ensemble pour dire, toi tu amènes ton regard organisationnel, on va dire, entreprise. Puis elle a fait tout un travail de recherche sur les principes scientifiques. Et moi j'ai amené tout mon regard société traditionnelle. Et effectivement, l'interdépendance qu'on trouve chez les bouddhistes, qu'on trouve partout, est la clé. Parce que quand on regarde un parcours de vie, nous sommes nourris dans le ventre de notre maman, par l'alimentation de la maman, par les émotions de la maman, sans doute même dans les émotions du papa avant la maman, puis nous sommes nourris par l'ambiance familiale, puis par un ami qui nous a fait de la peine, une trahison, puis par un accident. Bref, nous ne sommes que le fruit de nos relations. Ça devrait nous ouvrir à beaucoup de gratitude pour le chemin que nous avons pu parcourir.
Et c'est l'urgence pour l'avenir?
L'urgence pour l'avenir, je pense, c'est de vite remettre ça dans les écoles pour apprendre aux enfants à réapprivoiser la nature en eux et autour d'eux, les recentrer, les re-ancrer. C'est bien d'apprendre des apprentissages et écrire, lire, compter. C'est vital de réapprendre à s'ancrer dans la nature pour leur donner une soif, une envie d'avenir et une possibilité d'avenir. Je pense que c'est vraiment ça l'urgence.
Éric Julien, ça fait 35 ans que vous êtes en lien maintenant avec les Kogi.
Bon, j'ai passé les 33 ans, ce qui est un bon signe pour moi.
Qu'est-ce qui a le plus changé en vous, à leur contact?
Ce qui est très troublant pour moi, c'est au bout de 33 ans de découvrir à quel point ils savent et ils avaient raison. Si j'avais été en capacité de leur demander qu'est-ce que j'avais à apprendre, ils m'auraient dit « fais la paix avec toi-même ». Quand vous avez 25 ans, c'est pas des choses qui, en tout cas moi, qui me parlaient beaucoup. Je sortais d'une grande école, voilà, avec tout ce que ça veut dire. Et 33 ans après, je me rends compte que je commence à faire la paix avec moi, donc avec la nature. Et donc je leur renverrai bien un petit sourire.
Qu'est-ce que c'est faire la paix avec soi-même?
Ne plus être en guerre, ne plus avoir d'ego, ne plus avoir de rancœur.
Possible ça, ne plus avoir d'ego?
Oui, bien évidemment, c'est possible.
Parce qu'on est tous habités par notre ego.
C'est possible et on se rend compte quand on... On en a toujours, l'ego nous fait vivre aussi, mais regarder celui qu'on a longtemps qualifié d'ennemi comme un frère, Et là, on rencontre aussi toutes les grandes traditions, la compassion, et ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Et ce qui me fait sourire et qui me donne envie de leur envoyer un câlin, j'ai envie de dire, c'est merci d'avoir eu la patience d'attendre 33 ans pour me permettre de toucher ce genre de choses. Et pour la petite anecdote, ça m'a fait sourire, j'étais chez eux il y a 3 semaines, là, et ils m'ont donné un surnom, parce qu'un jour, le coq était mort dans leur village, j'ai fait le bruit du coq, le chant du coq, donc ils m'ont appelé la poule, Shinta. Puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit la grosse poule, Shinta Dueva. Puis après ils m'ont encore regardé, la grosse poule blanche, Shinta Dueva Wenge Kwe. Voilà, j'ai appris leur langue un peu comme ça, en partant de cette histoire. Et là j'arrive il y a 3 semaines, et ils m'appellent Shinta Atema. Et Shinta Atema, dans leur langue, ça veut dire celui qui commence à penser juste.
Qui commence, ça y est.
Qui commence.
Qui commence, encore un long chemin avec eux. De cette rencontre assez étonnante, et peut-être une première au niveau mondial, entre ces gardien d'une tradition et ses scientifiques. Qu'est-ce que les scientifiques peuvent en tirer comme enseignement ?
Je pense à un scientifique que je remercie beaucoup, Denis Chartier, qui a accepté de prendre en charge, géographe, professeur de géographie à l'Université de Paris, qui a accepté avec beaucoup de gentillesse de cheminer sur ce projet. Et j'ai été très touché par un moment dans la démarche où il dit: je vais parler en tant que scientifique. Et donc là, il parle du processus, des limites de la démarche, des risques et des enjeux. Et puis après, il reprend la parole, je pose ma casquette de scientifique et je parle en tant que chercheur. Et là, il nous ouvre un champ incroyable de recherche sur les sons du vivant, les levures qui ont un son, un chant, etc. Et on voit bien, dans son positionnement, ce tiraillement de la science entre l'audace de la découverte qui n'enlève pas l'esprit de rigueur, donc le scientifique qui continue son travail de rigueur, et l'ouverture au mystère. La vie est un mystère. Et tant qu'on ne laissera pas le mystère nous pénétrer et nous travailler de l'intérieur, on fera des découvertes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt finalement.
Et ça demande beaucoup d'humilité d'entrer dans cette démarche-là.
Peut-être que c'est pour ça qu'on le découvre quand on avance un peu sur son cheminement de vie. Et c'est peut-être là que les adultes, et ceux qu'on appelle adultes, et les jeunes peuvent se retrouver. Je pense que des adultes qui ont touché cette humilité peuvent ouvrir la voie aux plus jeunes pour permettre et arrêter de leur dire ce qui est bien et ce qui est mal, et que des jeunes qui sont encore en train d'apprendre les voies qu'on est en train de partager de l'humilité peuvent prendre confiance pour expérimenter. Mais il n'y a plus beaucoup d'adultes, il y en a, hein, qui sont capables de permettre, de rendre possible. Et ça, c'est un principe éminemment féminin, permettre qu'advienne.
Eric Julien, merci beaucoup de nous avoir aidé à un peu mieux connaître ces Indiens Kogi. Je renvoie, vous avez publié plusieurs livres, bien sûr, mais le dernier que vous venez de publier, qui s'intitule Kogi, le chemin des pierres qui parlent, aux éditions Actes Sud. Puis bien sûr, on peut rechercher sur Internet le site de votre association en tapant Chendukwa, T-C-H-E-N-D-U-Q-U-A, Chendukwa. Merci de votre accueil.
Merci beaucoup dans ce studio naturel.
Ce studio naturel, et merci à l'oiseau là,
qui nous a accompagné.
Toute l'émission. Merci à lui.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.